Slate Podcast.
Ce podcast vous est présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate.
Salut et bienvenue sur Les Sales Gosses, le podcast de Slate.fr. Les Sales Gosses, c'est une conversation intime sur les sales gosses que nous tâchons d'élever pas trop mal et sur les sales gosses que nous sommes à 20, 30, 40 ans. Et même si jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment causé couches lavables, pouces ou tétines et comparatifs de soutien scolaire, moi ce mois-ci, j'ai eu envie de prendre un peu de distance avec la famille au sens strict et j'ai envie de parler de couple et aussi de célibat de longue durée. Alors je vous rassure tout de suite, vous n'êtes pas sur RMC l'après-midi, j'ai pas invité de sexologue, il y aura pas d'appel d'auditeurs qui vont me poser des questions sur l'éjaculation précoce ou l'infidélité, même si ça aurait été rigolo et que j'ai un avis sur l'éjaculation précoce. Simplement, et j'avais semé quelques indices dans les précédents podcasts, je suis une mère célibataire. Et même si je crève pas encore totalement la dalle, j'ai pas non plus l'intention de finir ma vie en coloc avec mon chat. Donc je suis dans cette période où je me demande comment on chope en 2016. Et pour ce qui me concerne, comment on chope, comment on se met en couple, en tout cas si on l'a décidé, quand on a une petite trentaine et un enfant qu'on élève seul 26 jours par mois. Et d'ailleurs, apparemment, il y a un petit nom pour ça, on nous appelle, nous, les mères célibataires, les mamans solo. Et ça me donne envie de hurler à chaque fois que je l'entends. Ça sonne un peu comme célibatante ou attachante. C'est des expressions qui sont faites pour classifier de la chiclite ou éventuellement des personnages de série sur Teva, mais c'est certainement pas un statut social, maman solo. Et l'angoisse, comme souvent, c'est quand tu vas sur Internet et que tu regardes ce qu'on te propose quand tu tapes ces mots-là. Moi, par exemple, je me suis abonnée à plein de comptes Instagram de maman solo revendiquées. À la base, c'était juste pour vérifier si elles avaient une vie un peu plus merdique que la mienne. Et en fait, moi, je vois juste défiler des photos avec des meufs qui ont des suites maman poule et des gamins avec des suites mini cool. Et ça m'angoisse profondément. Puis de temps en temps aussi, je vais taper « Maman solo » sur Google et les premiers résultats, ben, c'est le journaldesfemmes.com, le guide pour s'en sortir, alors que juste en fait t'as pas de mec en ce moment, t'es pas non plus en dialyse. Puis un peu plus loin sur Google, tu tombes sur parents-solo.fr, un site de rencontre pour parents célibataires qui organise des pasta-parties. Donc des soirées où tu vas manger des pâtes avec des parents célibataires pour choper. Et moi je juge absolument pas les gens qui font des pasta-parties, j'ai déjà un problème en fait avec le principe des applis et des sites de rencontre. Alors draguer au-dessus d'une assiette de carbonara, même si c'est la vraie recette de Floriana, j'ai un vrai blocage. Et c'est d'ailleurs le sujet que je vais aborder aujourd'hui, les sites de rencontres en général et Tinder en particulier. Il y a plein de gens autour de moi qui comprennent pas pourquoi je refuse de m'inscrire sur Tinder. Et d'ailleurs, je crois qu'on dit pas s'inscrire sur Tinder comme on s'inscrit à une newsletter à la Redoute, ce qui veut peut-être dire qu'il y a un problème générationnel à la base. Et pour en parler avec moi, j'ai invité Mélissa Bounois, elle est journaliste comme moi, pour Slate.fr comme moi. Elle est rédactrice adjointe, pas comme moi. Et alors j'en ai rien à foutre de faire de l'entre-soi, de la pensée unique et de l'élitisme médiatique, parce que Mélissa, c'est je crois la personne la plus au fait dans mon entourage de Tinder, sur Tinder.
Eh ben,
salut Mélissa.
Salut.
Alors, et aide la vieille personne que je suis à comprendre, comment est-ce que tu définirais cette appli qui s'appelle Tinder en quelques mots ?
Tinder est une appli de rencontre extrêmement bien faite et simple qui te permet de visualiser beaucoup de profils de garçons, d'hommes, d'âges différents très rapidement. Donc tu à ton doigt et tu vois des photos de garçons défiler et tu peux les swiper, on dit, à droite, donc choisir le mec que tu veux, dire oui je le veux, ça faut que ton pouce aille à droite, ou dire non, lui je le trouve moche, lui il m'intéresse pas, en allant à gauche. Qu'est-ce que tu vois sur le profil? Tu vois donc sa photo, son âge, parfois il peut avoir dit là où il est, donc la ville où il habite. Et ensuite, tu peux voir des pages qu'il aime sur Facebook ou son compte Instagram. Ça, tu le vois en cliquant sur sa photo pour découvrir son profil.
Et c'est quoi la différence fondamentale du coup entre Tinder, parce que je suis vraiment totalement à la rue, entre Tinder et d'autres applis de rencontre ou les sites de rencontre, parce qu'il y avait encore ça il n'y a pas si longtemps.
C'est vraiment, quand je disais simple, c'est la clé, quoi. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais été sur des sites de rencontre. Sur des sites de rencontre, il faut que tu remplisses 100 cases pour créer ton propre profil et ensuite, tu commences à discuter avec des mecs. Là, en gros, ça te propose de te connecter à Facebook directement, ce qui fait que tu n'as pas grand-chose à remplir, tu en as vraiment pour une minute à te connecter. Et une fois que tu as fait ça, t'as juste, eux, ils ont fait pareil. Et donc, tu vas te retrouver, en fait, à voir des photos, leurs photos Facebook. Ils peuvent les choisir, les organiser. Mais en gros, c'est leurs photos de profil. Ils vont choisir les meilleures photos, clairement. Et donc après, c'est simple de trouver. Parce qu'en fait, t'as pas le truc de site de rencontre, de faut discuter, faut machin. Là, tu vas choisir et il y a seulement si lui a accepté et toi tu as accepté, vous pouvez commencer à discuter.
D'accord.
Et ensuite, ça se présente vraiment comme un système de messagerie lambda. Donc en fait, t'as l'impression d'envoyer des textos. T'es pas sur des sites de rencontres où tu sais tout est rose et tout est moche. Et c'est vraiment vraiment blanc et rouge et simple. Et c'est vraiment comme une app de messagerie. T'as pas l'impression d'être sur un site de rencontre. Et c'est ça, à mon avis, la clé aussi du truc. Et après, il y a la dimension de jeu qui fait que ça va très vite. Donc vraiment, t'as un mouvement de pouce. Tu dis oui, non, oui, non, oui, non. Et t'as vraiment, il y a des fois où c'est addictif. Vraiment, parce
c'est presque compulsif,
ouais.
Ce truc avec le doigt là.
Ouais. Au tout début, moi, quand je me suis inscrite en 2014, je crois que c'était à la rentrée 2014, vraiment, je m'arrêtais au bout d'un moment, je me dis, mais Mélissa, ça suffit. Parce qu'en fait, vraiment, le mouvement est simple, c'est un mouvement de pouce, c'est un mouvement que tu fais tous les jours avec ton téléphone. Donc au bout d'un moment, tu te dis, bah ouais, je fais oui, non, je faisais beaucoup non, je dois le dire. Et en fait, ton pouce part tout seul, tu vois. Il y a des fois, je fais merde, putain, je voulais swiper ce mec à droite et donc le choisir. Et en fait, je le mettais à gauche parce que mon pouce était habitué à la gauche. Et donc, je m'obligeais à pas faire plus de 20 minutes certaines fois. Après, je me suis dit, ouais, non, t'es vraiment folle. Donc, je me suis arrêtée, je me suis calmée. Mais au début, il y a ce sentiment de je vais aller jouer, quoi.
Alors, on va revenir sur ton parcours sur Tinder, mais juste une question un peu plus générale. Est-ce qu'il y a une typologie des gens qui sont inscrits sur Tinder? Moi, j'ai l'impression, en regardant sur le téléphone de mes copines qui l'ont, que 90% c'est des mecs. Et dans ces 90%, il y a une grosse proportion de mecs dont je pourrais être la maman.
Alors, quand
je suis pas si vieille, hein, je le précise.
Ouais, quand tu paramètres ton compte, il y a un des trucs à faire, c'est de choisir en fait l'âge des gens que tu veux draguer. Enfin, j'ai les stats, en gros, le cœur des gens sur Tinder, ils ont entre 25 et 37 ans.
D'accord.
T'as genre 40% à cette tranche d'âge-là et t'as 15% entre 35 et 45. Donc moi, j'avais choisi donc j'ai 30 ans, à l'époque j'en avais 28, j'avais choisi 28-35. Tu vois. Et donc tu te retrouves pas avec des jeunes, j'avais pas les petites 18 ans. Je crois que la toute première fois, j'ai laissé des jeunes de 18 ans. Et après, je fais, mais qu'est-ce qui se passe? C'était trop bizarre. Du coup, j'ai tout redéfini et j'ai fait genre 28-35 ans. Et là, t'as vraiment que des mecs qui se définissent entre 28 et 35 ans. Après, il y a les petits malins qui changent leur âge.
Ouais.
Et qui disent genre, j'ai 35 ans.
Ouais.
Et qui, en fait,
alors que c'est des bébés.
Ouais. Mais ça, tu les grilles tout de suite.
Et est-ce qu'on sait dans les études qui ont été faites s'il y a beaucoup de parents et de maman solo ou de papa solo?
Je sais pas, parce qu'en fait, il n'y a pas la dimension de... Tu peux indiquer, tu as une ligne de présentation, où tu peux dire tout ce que tu veux, où tu habites, ce que tu aimes, et tu peux préciser si tes parents. Il y a même des... Moi, j'ai vu des papas, du coup, qui mettent directement dans la première photo leurs enfants. Donc, ils se prennent en photo, eux, en
ce
selfie.
Ce qui est très, très, très bizarre, pardon, je t'arrête, mais c'est très, très, très bizarre de mettre une photo de ses enfants sur un truc où tu vas choper.
Ouais, mais en fait, je pense que c'est... Oui. Mais je pense que c'est pour eux le moyen de dire clairement, parce que comme tu swipes vraiment en regardant les photos plus encore que le prénom ou l'âge ou la ligne de présentation qu'ils ont pu mettre, c'est vraiment le moyen de dire, genre, d'entrée, ça va être ça,
tu vois.
T'annonces la couleur, c'est clair. Il y en a qui le font pas, il y en a qui le font. Et donc, de fait, il y a des parents. J'ai pas les stats précises, mais clairement, il y a des parents. Enfin, je veux dire, il y a tellement d'histoires possibles, il y a tellement de profils possibles qu'il y en a.
Alors, on va pas spoiler la fin tout de suite, garder un peu de suspense, parce que tu peux me dire quand est-ce que tu t'es inscrit et vraiment pour quelle raison? Est-ce qu'on se lève un matin en se disant, tiens, je vais télécharger Tinder, ou est-ce que ça se fait plus naturellement que ça?
J'ai jamais été sur les sites de rencontres. Je crois que j'ai une fois peut-être créé un profil sur Adopte un mec, et le site est complètement rose. Enfin, c'est vraiment un concept qui me plaît pas du tout. Et à la rentrée 2014, je voulais rencontrer quelqu'un, mais aussi faire du sexe. Parce que ma libido me disait, je veux coucher. et du coup, je me suis dit, j'avais un pote vraiment qui me montrait. Et du coup, j'avais besoin de voir avant de m'inscrire comment ça marchait. Donc, j'ai quand même regardé son profil avant d'y aller. Et ça me semblait simple, tu vois. Et en fait, surtout, je me rappelle d'un truc que je voulais absolument. C'était me rassurer sur tous les possibles. Parce que j'avais l'impression, tu sais, c'est... J'avais 28 ans et il y a un moment où t'as l'impression que t'as fait le tour de tous les cercles autour de toi.
Ouais.
Et que t'as rencontré plein de gens, c'est cool, mais tu vois pas vraiment quelqu'un qui pourrait te convenir, ou t'as pas envie de draguer quelqu'un, t'as pas de cible, t'as
pas de target, t'as pas de cible. À quoi correspond cette période?
Voilà. Et donc j'étais à cette période-là, je me suis dit, j'en ai marre. Je voulais juste voir des visages, et c'est vrai que Tinder, comme ça t'apporte une collection de photos. Ça me rassurait au début, juste c'était, je savais même pas si j'avais vraiment rencontré quelqu'un ou couché avec quelqu'un, mais au moins je voyais des visages, tu vois, et ça me rassurait. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé en septembre 2014, en me disant, j'étais assez cynique, hein, je me disais vraiment, je vais pas trouver l'homme de ma vie, je vais pas, tu vois, je vais peut-être coucher, rencontrer des mecs, on va voir. Je voulais voir. C'est vraiment une expérience.
Et est-ce que tu le dis autour de toi à ce moment-là, à tes potes, à tes parents?
Ouais.
Est-ce que
mes parents, non.
Le dimanche,
j'ai pas dit à mes parents, papa, maman, je suis sur Tinder. en revanche, si, je l'ai dit à mes potes, j'ai raconté, je l'ai dit en testant, parce que de fait, du coup, Tinder, ça va très vite. Donc tu commences à discuter, donc tu swipes. Machin. Au début, tu te dis, t'es très sélectif, tu fais en fonction de tes goûts. Moi, j'ai toujours été hyper sélectif sur mes goûts, vraiment. Et tu commences à discuter avec des mecs. Et en fait, ce qui est fou, c'est que tu discutes très vite de trucs très perso. Et donc, ça fait forcément des histoires à raconter.
C'est-à-dire, concrètement? C'est quoi les trucs très perso?
Dans les premières discussions que j'ai eu des discussions avec des mecs qui venaient de se faire larguer par leur copine, tu vois. Donc, tu commences à parler de tes histoires passées avec des gens que tu ne connais absolument pas. Et donc, tu racontes ta vie à des inconnus et donne un sentiment de vertige assez phénoménal. Et ça va vraiment, vraiment très vite. En une seconde, tu vois, ça a matché. Donc, c'est la grande expression. Et donc là, tu peux commencer la conversation et ça peut durer des heures, vraiment. Et tu as des notifs comme si tu avais un texto qui te disent « Vous avez un message de X ». Et après, ils peuvent voir si tu as vu les messages, si tu as lu les messages. Et tu as l'impression vraiment de faire rentrer des gens dans ton cercle intime.
Et avant d'en arriver jusque-là, jusque dans ces discussions un peu intimes, c'est quoi c'est vraiment une question de néophyte, hein, mais c'est quoi les trucs absolument rédhibitoires sur une bio ou une photo? C'est quoi les trucs qui font que tu swaps?
Ça dépend des gens. Pour moi, clairement, y a déjà un truc de beauté, hein, c'est est-ce qu'il me plaît, est-ce qu'il me plaît pas. Ensuite, ceux qui savent pas écrire.
C'est l'orthographe.
Les fautes d'orthographe, vraiment, ça me heurte. Donc, j'arrêtais la conversation si c'était trop comme ça. Et après, il y a ceux où tu vois vraiment qu'ils ont des techniques de drague, des pick-up lines, des phrases qu'ils font à chaque fois, tu vois, où les mecs qui font du volume, tu vois, ils envoient les mêmes trucs. Et là, tu te dis, bah non, c'est pas intéressant.
C'est l'équivalent du mademoiselle dans la rue, quoi.
Voilà. Et ça, il y en a, mais bizarrement, j'en ai pas eu tant que ça, en fait. Et souvent, comme j'étais pas si habituée que ça, parce que je swipais pas à droite plein de mecs, j'étais quand même toujours un peu étonnée de les regarder faire, tu vois, de regarder comment ils draguent, comment ils demandent. Souvent, ça commence par un « salut, ça va ?», tu vois, qui est assez classique. Et donc, au bout d'un moment, quand tu as commencé sans conversation de « salut, ça va ?», tu fais « bon ». Et du coup, s'il y en a un qui est un peu original, tu fais « ah, ok, lui, il est original, ça va être intéressant ».
C'est quoi être original ?
Bah, faire une blague, commencer par une blague. Où il y a ceux qui vont faire une blague sur le fait de faire une accroche classique. Et il y en a qui vont faire des accroches complètement originales, qui vont t'envoyer direct. Genre, tu peux envoyer des gifs sur Tinder. C'était pas depuis le début. Mais du coup, ça marche assez bien. Je suis pas trop mettre des gifs partout, mais sur Tinder, l'ouverture. Enfin, faire une ouverture sur un gif, si le gif est bien choisi, franchement, ça marche bien.
Et comment on passe donc de ces conversations virtuelles à une rencontre dans la vraie vie? Je me suis toujours demandé, on se dit quoi? On se retrouve dans un bar, dans un endroit public?
Alors, donc comme j'ai eu, soyons honnêtes, une dizaine d'expériences où j'ai rencontré les mecs, vraiment, j'ai eu différents cas. Il y a eu des mecs où vraiment, on a calé un rendez-vous en une heure, je pense. Vraiment. Où tu discutes et tu te rends compte que vous êtes déjà vu, ça arrive ça. Et donc tu te dis bon bah ok, j'ai pas peur, je vais y aller machin. Il y en a certains où j'ai discuté pendant 2 semaines et je les ai jamais vus. Et en fait tu dis qu'est-ce que tu fais dans la vie. Enfin c'est vrai. Après ça devient une conversation assez simple. Tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que t'aimes? Enfin tu poses pas ces questions là comme ça, mais ça arrive comme ça dans la conversation. Et tu te dis au bout d'un moment bon bah on pourrait peut-être discuter de ça autour d'un verre. Moi, je l'ai proposé, des mecs m'ont proposé, il n'y a pas de... Ça n'a jamais été dingue. Après, j'ai eu sur tous ces mecs, j'ai eu certains des mecs qui étaient que des plans cul, et donc qui disent j'ai la bite dure, okay. Qu'est-ce qu'on fait, tu vois?
Bonjour, monsieur.
Et c'était des cas où je savais que je voulais faire ça, donc j'y suis allée. Enfin, des cas, un cas. Et c'est honnête, tu vois, tu te dis genre, moi j'ai vraiment tout eu du plan cul à la relation. Et en fait, tu sais très vite ce que veut le mec, toi tu dis très vite ce que tu veux. Il y a des fois où ça a vraiment été des conversations où le sexe n'a jamais été amené, où il n'y a même pas eu de question de on va créer quelque chose. C'était genre vraiment des conversations presque amicales. Genre j'ai rencontré, parce que comme je suis journaliste, je suis tombée sur des journalistes.
Et, ah oui, alors ça m'intéresse, on va y revenir dans pas
longtemps. Et du coup, on a juste parlé de ah oui, t'es machin, et on a juste parlé en fait. Et ça, la conversation s'est arrêtée assez naturellement. Et on s'est jamais rencontré dans un bar. Mais quand il doit y avoir rencontre, C'est juste, tu veux prendre un café, quand est-ce qu'on se retrouve et ça se fait. Après, il y a le moment où tu arrives dans le café.
Alors, tu disais que tu avais commencé, que tu t'étais mise à Tinder pour élargir ton cercle. Et en fait, précisément, j'ai l'impression que c'est pas ce qui se passe, puisque pareil, j'ai plein d'amis autour de moi qui tombent sur des collègues, sur le petit frère d'un pote, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand tu tombes sur ton voisin?
Quand tu tombes sur ton voisin, il faut savoir que ça se trouve, ton voisin ne va pas tomber sur toi. Et donc, si tu le swipes à gauche, donc si tu le refuses...
Il te voit pas.
Il sait pas que tu as refusé. Et ça se trouve, il tombera jamais sur toi. Donc, il saura pas que t'es sur Tinder. Donc, c'est pas grave. Et si lui, il tombe sur toi, il peut se dire que ça se trouve, toi, tu ne l'auras jamais vu. Donc, il y a une espèce de... Si jamais un jour vous êtes amené à parler de ça, si t'amènes dans la conversation, vous allez le savoir. Mais en vrai, moi, je suis tombée sur des gens que je connais assez bien. Pas mon meilleur ami, mais et en fait, je me suis jamais retrouvée face à eux en disant putain, ah ouais, t'es sur Tinder. Enfin, j'ai jamais eu la conversation, alors que c'est des gens que je connais assez bien.
Mais on peut faire comme si c'était jamais arrivé, quoi.
Ouais, vraiment. Mais vraiment, parce qu'il y a en fait, il y a quand même assez de monde. Enfin, ça dépend de comment tu définis tes critères, mais c'est vraiment critères d'âge et de géolocalisation. Il y a vraiment beaucoup de gens, en fait. Donc, c'est pas grave et on va pas t'en parler en te disant, au fait, ça, c'était le cas au début, mais maintenant, en 2016, donc ça a été créé en 2012, ça fait 4 ans. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde.
Alors, donc, il y a le risque potentiel donc, de tomber sur des proches et il y a le risque plus inquiétant de tomber sur des dingos. Alors, moi, une des raisons pour lesquelles je fais un blocage là-dessus, c'est que je trouve qu'en tant que meuf, on est déjà tellement exposé au harcèlement, les mains au cul dans le métro, les micro-agressions, tout ça. Je trouve que c'est presque se jeter dans la gueule du loup. Comment tu fais pour te protéger des cinglés et du harcèlement?
Les dingos, en fait, tu les vois tout de suite. Déjà, il faut avoir matché avec le dingo. Donc, c'est vrai que dans son profil, a priori, comme c'est des photos, Facebook, son compte Instagram, sa ligne de présentation, tu vas pas savoir s'il est dingo. Mais ensuite, en discutant avec lui, tu vas vite le comprendre. Et une fois que si le mec s'avère dingo, tu le supprimes et le mec ne peut plus te contacter. Et s'il veut te recontacter, il faudrait qu'il te retrouve et que vous rematchiez. Or, toi, tu ne vas pas le rematcher, vu que tu sais qu'il est dingo, que tu sais qui c'est, tu vois.
Ouais.
Sauf s'il se recrée un autre profil. Moi, je ne suis jamais tombée sur un fou.
D'accord.
Et j'ai passé, un an et demi sur l'appli on and off, hein, tu vois, avec des périodes où j'y étais plus, des périodes où je suis revenue. Je suis jamais tombée sur un dingo. Il n'y en a pas plus sur Tinder qu'ailleurs. C'est pas Tinder qui va faire que le mec est fou. C'est juste un autre moyen de rencontre. Et donc forcément, comme l'appli est très utilisée, que c'est un peu le truc du moment, on va dire, voilà, il y a des faits divers à cause de Tinder. Moi, dans mon entourage, parmi toutes les amies et amis que j'ai, j'ai eu aucun cas de folie totale. Tu vois, après, c'est des gens névrosés.
Oui, parce que sans aller jusqu'à la tomber sur Guy Georges, il peut y avoir juste un malaise au moment où tu rencontres la personne. Je sais que j'ai vu passer sur Twitter un espèce de dispositif dans les toilettes d'urgence pour les filles, pour que tu puisses dire au secours,
le traditionnel, un mauvais rendez-vous, un appel à un ami qui t'appelle, qui te dit genre, vite, pars.
Je crois que c'est peut-être fondamentalement le problème que j'ai avec Tinder et toutes ces applis, c'est moi je suis pas une décroissante de la séduction genre à l'ancienne, tout ça, je vais pas au bal le samedi soir, mais j'aime bien l'idée que les choses se fassent un peu par hasard et même pas savoir moi-même dans quoi je mets les pieds. C'est-à-dire que j'ai eu des histoires où je pensais que ça allait être que des histoires de cul et en fait j'ai fait un enfant avec cette personne, ou pas toujours hein, mais je fais pas des enfants avec tous mes plans cul, et puis parfois l'inverse, alors que là c'est le contraire, c'est-à-dire que il y a une espèce de logique de consommation un peu,
l'effet de
capitalisme de la drague qui me pose un problème.
Oui, l'effet de catalogue te laisse penser ça, que tout le monde est là pour baiser, pour trouver juste un plan d'un soir. Dans mon histoire à moi, je me suis retrouvée un jour, un matin à 9h, à voir que ça avait matché avec un Nicolas. Je regarde le profil de ce garçon et je me rends compte qu'il correspond pas forcément à mes critères habituels, et je me dis c'est pas moi qui l'ai choisi, ça doit être Hugo qui s'amuse à prendre mon portable pendant les soirées, à swiper pour moi.
Hugo qui est un ami donc.
Un ami. Et donc, je commence à discuter avec Nicolas. Et en fait, il se trouve que le hasard a fait que j'avais déjà rencontré Nicolas lors de l'enregistrement d'un podcast, d'un autre podcast que j'anime, qui s'appelle Studio 404. Et j'avais parlé 2 minutes avec lui. Et en fait, je me rappelle vaguement avoir parlé avec lui 2 minutes. Je me dis, ah oui, ça y est, machin. Et donc, on continue à discuter. Et il est vraiment très sympa. Je devais aller au Japon. Il était déjà allé au Japon. Alors, on parle de Japon, et il me dit, est-ce que tu veux aller boire un verre pour en discuter? En plus, c'était l'été, donc c'était facile, tu vois, les apéros, c'est plus facile l'été. Et donc, on se retrouve le soir, et on discute, et on passe une super soirée. Et je me dis, j'aurais jamais swipé ce garçon.
Mais là, juste, pardon, je fais un aparté, mais je me rends compte que j'ai dit swapé tout à l'heure, ce qui est totalement la honte, c'est swipé, en fait.
Swipé,
voilà. Donc, j'ai
4 ans. Il n'y a pas vraiment de mot français, faudrait qu'on le trouve. C'est juste faire un mouvement de pouce à droite.
D'accord.
Et donc, on passe une super soirée. Et donc, je me dis, c'est fou, et c'est génial. Et on s'est revus. Et on est partis en vacances ensuite, 15 jours après.
Attends, pardon, parce qu'il y a un enchaînement un peu rapide. Comment on passe de ça à on part en vacances ensemble?
On a passé une super soirée, et du coup on a repassé d'autres super soirées. On s'entendait juste super bien. En fait, on s'était tous les deux dit que c'était clairement pas dans les discussions qu'on avait un plan cul. C'était déjà, on était amusés de se retrouver alors qu'on avait déjà discuté 6 mois avant et lui se rappelait et moi je me rappelais vaguement. Et on était amusés par ça et en fait ça s'est vraiment bien passé. Et en fait il se trouve que je devais partir en vacances au Japon, donc on avait parlé de Japon et que j'ai eu un problème de passeport, donc je suis jamais partie au Japon. Et lui il revenait de vacances et il avait une semaine et je lui dis, bah, comme ça se passait super bien, je lui dis, tu veux pas qu'on parte en vacances? Et on est parti en vacances. Et
oh, quand putain, j'adore ta vie.
Quand on est parti en vacances, je suis arrivée chez lui pour qu'on prenne l'avion. Je me suis dit, genre, je l'adore, mais je vais passer 10 jours avec un mec que je connais depuis 15 jours. Et j'avais très peur, mais en même temps, je l'avais, tu vois, tous les rendez-vous me faisaient penser que ça se passerait bien. Et ça s'est super bien passé. Et depuis, ben, on est toujours ensemble.
Et ça fait combien de temps?
Ça va faire 5 mois, là, 6 mois. Ça se passe très bien.
Et alors, quand vous parlez de votre couple à vos potes et à mon obsession des parents et du repas du dimanche, mais est-ce que vous dites quoi? Vous dites, on s'est rencontrés sur Tinder ou grâce à Hugo?
On dit Tinder. J'ai mis du temps à dire à Nicolas que Hugo l'avait choisi. Ça l'a amusé. Enfin, je crois, en tout cas. C'est ce qui m'a laissé penser. Je l'ai pas dit à mes parents parce que je pense qu'ils me sortiraient l'argument du, non, mais Internet, c'est pas sérieux. Alors, je fais beaucoup de lobbying auprès de mes parents pour leur expliquer Internet, tout va bien, c'est un moyen de communication comme un autre, et que je leur envoie des mails et qu'on discute aussi ensemble sur Internet. Mais je pense que je finirai par leur dire aussi parce que c'est important qu'ils comprennent que les choses se font comme ça aujourd'hui.
Et est-ce que tu crois que du coup, c'est pas du tout pour te pousser à te reproduire, mais donc les gens qui se rencontrent sur Tinder, parfois ils vont faire des bébés, et éventuellement un jour ils devront raconter à leurs enfants, parce que les enfants adorent ça, raconter comment ils se sont rencontrés, tout ça. Est-ce que tu penses que du coup on va avoir une génération d'enfants dont les parents se sont rencontrés comme ça, et qui vont le vivre plus ou moins bien?
Mais je pense. Parce qu'en fait, on dit Tinder, mais il y a plein de gens qui se rencontrent sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat. Enfin, tu vois, des gens qui ne se connaissent pas, mais qui, à force de discuter sur tous ces réseaux sociaux, pour moi, c'est juste un autre moyen. Il y en aura des gens qui se sont rencontrés sur Tinder. Je connais d'autres gens qui se sont rencontrés sur Tinder, qui ont des relations. Enfin, moi aussi, je vais avoir des enfants un jour. Je sais pas comment ça sera arrivé, avec qui ce sera, mais... Oui, ça va arriver, ça va bien se passer. Et pour moi, c'est vraiment un autre canal. Est-ce que toi, t'as jamais eu de relations qui sont parties, en fait, de discussions que t'as eues sur des sites internet, par mail, par Twitter?
Si je fais c'est pas parce que j'ai eu 1 milliard de relations, c'est que, non. Je crois que je suis vraiment à l'ancienne. Statistiquement, 90% des histoires que j'ai eues, c'est sur mon lieu de travail. Je pense que ça mérite peut-être une réflexion ou une discussion avec mon psy. Mais non, j'ai vraiment pas ce réflexe. Et je me fais draguer quand même sur Internet. Je reçois des messages de gens que je connais de plus ou moins... Enfin, de mon cercle ou de cercles pas très éloignés. Mais non. Est-ce que j'ai un problème?
Non, je sais pas si t'as un problème, mais c'est juste que t'es pas... C'est juste pas encore arrivé. Après, faut pas faire de blocage vis-à-vis de ça, j'imagine, parce que c'est vraiment la façon dont on parle aujourd'hui.
Moi, je trouve que ça pose quand même vachement de questions sur le célibat et sur ce que j'appelais tout à l'heure le célibat de longue durée. C'est qu'en fait, l'existence de ce type d'application, ça peut mettre un terme à une période de célibat qui est peut-être nécessaire. Bah, tu vois, encore une fois, autour de moi, j'ai des potes qui se sont fait larguer ou qui ont quitté leur mec ou leur meuf et qui presque aussitôt, 48 heures, une semaine après, se sont mis sur Tinder comme s'il fallait tout de suite retourner sur le marché, alors que vraiment, je suis persuadée que le célibat, c'est pas si grave, si ça dure pas 25 ans et que t'en souffres pas. Et est-ce que, voilà, ma question, c'est est-ce que ça prive pas les gens d'une période nécessaire de reconstruction, d'interrogation, de se poser la question de savoir ce qu'ils veulent vraiment ou pas?
C'est intéressant. Après, moi, je l'ai vécu, ça, parce que j'ai fini une relation et je me suis dit, non, n'y retourne pas sur Tinder. Et j'y suis retournée une semaine après. Et j'ai rien fait. Enfin, j'ai pas matché, j'ai pas discuté. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, un gars avec qui j'avais matché l'année d'avant, avant cette relation, m'a recontacté par texto, parce qu'on avait échangé texto, on s'était vus, et on a commencé une relation. Et en fait, ça a pas marché, ça a duré un mois et demi. Et donc j'ai arrêté, parce que justement, j'avais besoin de cette période de célibat. Et j'ai arrêté. Et pendant six mois, je suis pas allée sur Tinder, et quand j'y suis retournée, bah, c'est l'histoire de Nicolas qui a commencé.
Et est-ce que tu penses que ça a une influence sur la sexualité des gens de notre âge? On n'a pas exactement le même âge, mais on fait comme si. Mais est-ce que tu penses que ça a modifié quelque chose dans notre rapport au sexe
Je pense qu'il est... pour notre génération, je pense qu'il est déjà décomplexé, mais c'est vrai que ça le décomplexe encore, parce que moi, il y a vraiment un cas où... j'espère que mes parents ne vont pas écouter. Papa, maman. Il y a un cas où j'ai discuté à midi et deux heures après...
J'avais ton slip sur la tête.
Ouais. Et oui, ça m'était pas jamais arrivé. Enfin, ça m'était jamais arrivé.
C'est-à-dire que tu l'aurais pas fait en croisant un mec dans le métro ou en soirée.
Je sais pas si je l'aurais fait en fait dans un bar. Ça se trouve, je l'aurais fait dans un bar, mais ça m'était jamais arrivé dans la vie. Et c'est vrai que le fait de vivre ça, parce que donc en deux ans, il m'est arrivé vraiment un nombre fou. Enfin, un nombre fou, non. Plus que toutes les années précédentes, et c'est clairement grâce à Tinder. Et ça a un peu accéléré, si tu veux, ma vie sentimentale et ma vie sexuelle. Et en même temps, le rythme était guidé que par moi. C'est-à-dire que, encore une fois, j'y allais ou j'y allais pas. Le mec me mettait pas une pression de fou, il me harcelait pas. Encore une fois, si jamais il insistait trop, je pouvais le supprimer en une seconde. Donc, mais oui, ça a clairement défait quelque chose. Il y a eu beaucoup d'articles aux États-Unis là-dessus sur comment c'est devenu capitalistique, parce que vraiment, t'as des mecs qui couchent avec trois filles dans la même soirée. Mais est-ce que ça existait pas pré-Tinder? Enfin, je veux dire, Tinder, c'est 2012. Enfin, en 2010, je pense qu'il y a des mecs qui faisaient déjà ça par d'autres moyens. Moi, ça a été un moyen d'accélérer les choses. Je pense que plein de gens ont accéléré les choses autrement.
Et est-ce que, à la même échelle, tu crois que ça a changé le rapport des sociétés au célibat? C'est-à-dire que je me demande beaucoup si du coup on va pas trouver encore moins d'excuses aux célibataires d'être célibataire. C'est-à-dire qu'on va te dire, bouge-toi, quoi. T'as aucune raison d'être toute seule alors que il y a ce facilitateur de rencontre.
Bah, c'est vrai que quand j'ai eu une amie qui s'est plainte d'être célibataire, qui me dit j'en ai marre, je rencontre pas de mec, je suis triste, et en même temps j'ai envie que ce soit un moment magique, enfin tu vois, ou même pas un moment magique, mais juste le hasard, tu vois, tu rencontres quelqu'un, c'est cool, dans un bar, dans une soirée, et puis voilà, vous embrassez. Et je lui dis mais c'est Tinder, enfin, vraiment, elle me dit ouais, mais c'est pas magique, je veux pas, machin. Et elle me dit arrête de mettre la pression.
Parce qu'elle existe, cette pression.
Elle existe parce que notre société fait que faut être en couple. C'est comme ça, faut être en couple, faut être marié, faut avoir des enfants. Enfin, maintenant, ça a changé. Il y a quand même beaucoup plus de cas, mais ça le met. Mais quand elle m'a dit ça, je me suis vraiment rendu compte. Je lui ai dit, genre, fais ce que tu veux, tu vois. C'est juste, je te dis, c'est un moyen parmi d'autres. Oui, ça te dit, c'est possible, c'est très facile. Pourquoi t'es seule? Moi, je poserais jamais cette question à mes amis. C'est juste quand elles me disent qu'elles ont besoin de sexe ou d'un mec, je leur dis, moi, j'ai testé. Vois pour toi, teste pour toi. Mais notre société ne fait que ça, ne fait que te dire soyez en couple, soyez bien, soyez à deux. Moi, après un an de Tinder, j'ai fait genre waouh, je vais être célibataire, laissez-moi tranquille. Mais ça me rassurait d'avoir dans un coin, tu vois, le fait que j'aurais la possibilité si je voulais y revenir. Je savais aussi, si je pouvais être célibataire, c'est aussi parce que je me disais que si je voulais ne plus l'être, c'était moins compliqué.
En fait, je crois que le propre de mes précédentes relations, je disais tout à l'heure que c'était sur mon lieu de travail, ou en tout cas au boulot, pas forcément avec des collègues, mais au travail, grâce au travail. Et le propre de ces relations-là, c'est qu'elles ne m'ont pas coûté d'efforts particuliers. C'est-à-dire que je me lève le matin pour aller au travail, et il y a des hommes avec lesquels j'ai eu des histoires. Alors que Tinder, je trouve que tu es déjà dans une démarche, tout ça. Il faut sortir de chez soi. Et moi, j'ai un gros problème, par exemple, c'est que je suis très, très casanière. C'est hyper compliqué pour moi de sortir. J'annule quasiment toutes les soirées auxquelles je suis invitée. Je vais appeler fête d'anniversaire. Je pose des lapins. Je suis la pote qui pose des lapins. Donc en fait, techniquement, le truc, c'est que ça va m'inscrire dans une démarche proactive, c'est-à-dire qu'il va falloir que je propose un rendez-vous, que je m'organise, que je sors de chez moi, que je m'habille, qu'éventuellement je mette du gloss, tu vois, j'en sais rien, mais que je sois active. Et je pense qu'effectivement, c'est peut-être ça qui me pose un problème. Je suis peut-être dans la séduction passive.
Donc, du coup, le truc, c'est plus que tu préfères que l'amour vienne à toi.
En fait, je suis en train de me rendre compte que je suis une putain de princesse, alors que je déteste ça et que j'ai pas du tout je suis pas du tout une princesse dans la vie. Mais peut-être qu'effectivement, j'aime bien l'idée qu'on vienne me chercher, parce que l'avantage quand on vient te chercher, c'est que tu vas pas te prendre devant. Tu sais que si la personne vient à toi, c'est qu'a priori tu lui plais, tout ça. Et c'est vrai que en cherchant bien, je crois que j'ai jamais été moi-même branchée un mec. J'ai jamais, c'est jamais moi qui ai dragué. Je déteste ce mot, mais j'ai jamais été voir un mec pour lui proposer un truc. Ils sont toujours venus. On posait un jeu de water. Non,
mais
c'est vrai.
Mais tous, là, tu vas être draguée aussi. Tu sais, une fois que la discussion commence, tu vas être draguée. Enfin, je veux dire. Ouais. Moi, dans tous les cas, c'est un truc de drague qui se passe et c'est un jeu de ping-pong, c'est une discussion, mais tu vas clairement être draguée. Le seul moment où t'es seule, c'est quand tu prends l'appli, tu la télécharges et que tu te connectes, ça te prend à peu près 1 minute 30. Et ensuite que tu choisis. Mais ensuite, c'est un jeu de drague et les rendez-vous sont des rendez-vous. Mais vraiment, il y a les 10 premières minutes où c'est drôle, souvent c'est drôle. Et après, ça peut être une super discussion. Et quand t'as eu des bonnes discussions avant, tu connais déjà un peu la personne. C'est ce que je disais au tout début sur l'intimité des discussions. T'as l'impression de connaître quand même vachement cette personne parce que tu te rends compte que tu sais plein de trucs sur sa vie. Elle t'a dit plein de trucs sur sa vie. Et donc, tu peux passer une super soirée comme tu aurais passé une super soirée. Et souvent, tu sais des discussions que tu vas passer un bon moment et clairement, tu vas te faire draguer. Quoi. Ça vient à toi. C'est juste qu'il y a eu ce petit moment de téléchargement d'une appli qui est, je l'avoue, moi aussi, hein, quand la toute première fois, je me suis dit, relou. Quand j'ai téléchargé, je me suis dit, c'est un truc, quoi. C'est pas n'importe quoi, je m'en souviens, je sais quand je l'ai fait. Mais
du coup, je me demande s'il n'y a pas une forme de sexisme qui a été un peu intégrée, parce que déjà autour de moi, tous ceux qui sont anti-Tinder, très réticents, c'est que des meufs. Ouais. Et vraiment, en étant tout à fait honnête avec moi, je me dis que si j'étais un garçon, ça me poserait beaucoup moins de problèmes socialement de dire ouais. Je suis sur
Tinder. On a intégré le fait qu'on ne devrait pas chercher.
On a intégré ce truc de princesse, quoi.
C'est le moment où tu es féministe, Nadia, et où tu dis non.
Non, mais je m'en veux.
Tu vois, du coup, je ne veux pas être une princesse.
Ça m'interroge vachement parce que ça veut dire que tu peux être ultra féministe sur plein de sujets et en fait sur des trucs qui touchent comme ça à l'intime, être une espèce de grosse réac.
On a intégré ça comme on a intégré le fait qu'il fallait être en couple, sur le truc dont on parlait, sur faut pas être célibataire. Et ben, c'est le moment où. Et moi, ça a changé ma vie, et en bien, tu vois. Donc,
j'aime beaucoup comment tu lâches pas l'affaire pour me convaincre.
Non, mais oui, parce que je pense que j'avais la même angoisse que toi, j'avais le même sexisme en moi de genre, je dois me faire draguer, ça doit être magique, ça doit être un moment, ça doit être dans une soirée. Et en fait, je suis arrivée sur Tinder, et en fait, je me suis retrouvée face à des cercles, parce que tu tombes sur des mecs qui sont dans tes cercles de cercles, qui sont des gens que tu rencontrerais en soirée. Et moi, je suis sortie vraiment qu'avec des mecs comme ça, que j'aurais dû rencontrer dans la vie, mais en fait, c'était juste pas fait. J'étais juste pas allée à la bonne fête. Parce qu'un jour, j'avais dû dire, genre, non, je vais manger ma glace, tu vois. Et enfin, c'est la même chose. Et donc, je me dis, c'est trop con. Et, Et en fait, je les vois arriver, je discute avec eux et ça se passe bien. Tu te dis, putain, c'est fou quand même.
Et là, tu viens de gagner un point, de marquer un point.
Ouais, parce que aussi, il y a ce truc, c'est que des inconnus. Mais en fait, non, c'est ça le truc que j'ai assez facile avec Tinder, c'est que comme tu es géolocalisé, c'est autour de toi. Donc, tu habites dans l'Est parisien, j'imagine. Et donc, ça va trouver les gens qui habitent aussi dans l'Est. Tu peux changer le faisceau, donc tu peux aller de 2 km. Moi, j'avais mis 2 km pour avoir Paris. Je suis dans ma bulle, donc. Et tu peux aller jusqu'à, je pense, 100 km.
Tu peux
choper
un mec dans le 15e.
Ouais, et tu peux aussi choper un mec en Iran. Tu peux discuter avec un mec en Iran. Parce que tu peux faire le monde entier. Et après, je crois qu'il faut payer, si tu veux, si t'es genre en Iran et que tu veux parler avec des filles de Paris ou des mecs de Paris. Tu vois. C'est comme ça que j'ai parlé avec un Américain que j'ai fini par l'interviewer. Donc, il n'y avait aucun enjeu, tu vois. J'ai trouvé une interview sur Tinder aussi. Mais donc, en fait, tu te retrouves vraiment, tu tombes sur des gens, tu dis, ah oui, je l'ai déjà vu dans une soirée, mais je ne sais pas qui c'est. Tu n'as jamais parlé avec lui. Et il se peut que vous matchiez, que vous rencontrez. Et en fait, c'est comme si tu l'avais rencontré samedi soir à la fête de trucs et que vous étiez allé boire un verre le dimanche parce que vous étiez bien entendu, où vous aviez couché ensemble. Et ça, ça facilite la chose parce que moi, dans les deux cas où j'ai vraiment eu des longues relations, c'est des gens que j'avais déjà croisés dans des endroits. Et donc, Nicolas, j'avais parlé avec lui, mais le précédent, j'avais pas parlé avec lui. Et en fait, c'est fou parce qu'ils étaient là, tu vois. Sauf que bah, ça, c'était juste jamais fait. La vie à FX, j'avais pas parlé à ces personnes.
D'accord.
Et est-ce que du coup, là, quand on parle féminisme, du sexisme qu'on a intégré, tu as un peu plus envie d'y aller pour tester ?
Ouais, parce que c'est un truc que j'ai envie de corriger pour le coup. Si je me rends compte que j'ai intégré une forme de sexisme, ça me pose un problème et j'ai envie d'agir différemment. Et je pense que vraiment la question que ça pose, au-delà du simple fait de rencontrer ou pas quelqu'un sur Tinder, c'est comment les femmes, elles peuvent admettre, moi comprise donc, admettre qu'elles peuvent être dans une démarche un peu proactive de la séduction, qu'elles peuvent aller chercher quelqu'un et pas attendre sur un balcon comme réponse avec leurs cheveux longs qu'on vienne les chercher et monter sur leur tresse. Et peut-être que ça demande effectivement un peu de réflexion sur ça et comment très bêtement, quand t'es une meuf féministe, t'as malgré tout intégré des mécanismes atroces. Et je pense que vraiment, ça pose cette question-là et que les hommes... je pense pas qu'un podcast comme ça, avec deux garçons à nos places, aurait donné la même chose, ou même s'il aurait
pas
pu être envisagé, parce que je pense que c'est un non-sujet pour la plupart des hommes, alors que c'est un sujet... pour les femmes, visiblement.
Et je pense qu'en plus, tu serais étonnée de la facilité avec laquelle ça se passe, quoi. Enfin, ça, et de comment ça se passe bien, surtout. Parce que tous les rendez-vous que j'ai faits, il y en a, je pense, deux où je me suis dit, qu'est-ce que tu fous là ? Et en fait, ça faisait quand même des bonnes histoires à raconter à mes potes. Donc, je ne l'ai pas mal vécu, tu vois. Je ne me suis pas dit, genre, oh, ben là, plus jamais sur Tinder. Ça aurait pu juste être des soirées qui auraient mal fini, des fêtes, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Mais le reste, ça a été des relations, des petites relations, tu vois. Mais
tu donnes tellement tout pour me convaincre. Si jamais je rencontre un mec sur Tinder et qu'on a un enfant, je l'appellerai Mélissa.
Je te jure, c'est promis. Et si c'est un mec, tu l'appelles Mélissa.
Je l'appellerai Mélisso. Alors, en attendant de télécharger ou pas Tinder sur mon téléphone, moi, je vais continuer à rester chez moi avec mon chat et mon sapin et ma fille qui s'appelle Sacha, donc. Et on a regardé sur Netflix mon conseil culture de ce mois-ci. C'est une série qui s'appelle Gilmore Girls. Et normalement, tout le monde a entendu parler de cette série, en particulier ces derniers temps, parce qu'il y a la 8e saison qui vient de sortir sur Netflix. Les 7 autres saisons avaient été mises en ligne il n'y a pas très très longtemps. Et pour résumer, même si c'est impossible à résumer une série comme ça, c'est l'histoire d'une mère et de sa fille, donc forcément je m'identifie beaucoup, et dans une petite ville américaine, tout ça, et donc on suit deux trajectoires assez différentes qui se rejoignent parfois, et dans cette 8e saison, la fille a une 30aine d'années, et c'est une loseuse, tout ça, et la mère a un petit peu moins de 50 ans, et c'est aussi une loseuse, et c'est des loseuses magnifiques, c'est des loseuses célestes, elles arrivent à sublimer toutes les merdes qui leur arrivent dans la vie, ce qui n'arrive jamais dans la vraie vie, mais c'est des espèces de modèles pour ma fille et moi, et on s'appelle mutuellement Rory et Lorelai, ce qui est un peu honteux, et ce qui me fait dire que peut-être il va falloir que je rencontre quelqu'un, parce que quand tu commences à te donner des surnoms de séries, c'est que ça craint. Donc voilà, ça s'appelle Gilmore Girls, et c'est sur Netflix.
Ce podcast vous a été présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate.